Bonsoir, entrons ensemble dans un tendu débat consacré ce soir à la notion de résilience. À l'ordre du jour ce soir, qui a les moyens d'être résilient ? Depuis des mois que dure la crise de la Covid, un mot revient sans cesse pour nous appeler à ne pas céder devant cette adversité, pas plus d'ailleurs que devant les attentats islamistes, la résilience. Un terme popularisé en France par le psychiatre et écrivain Boris Cyrulnik, qui est notre invité ce soir et qui a conquis le domaine de l'urbanisme par exemple. Il existe maintenant des villes résilientes, de l'entreprise, puisque l'incertitude est au cœur de l'économie, l'entreprise se devrait d'être résiliente. Un terme qui s'applique d'ailleurs aussi bien aux individus qu'aux groupes et qu'à la nation tout entière, comme l'a souvent dit le président de la République. Mais sommes-nous tous égaux devant cette capacité de résilience ? Ce concept est-il opérant en toutes circonstances ? Certains milieux sociaux facilitent-ils ou bien freinent-ils au contraire notre possibilité d'être résilient ? C'est ce que nous allons voir avec Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et écrivain, auteur récemment de « La nuit, j'écrirai les soleils » chez Odile Jacob, et avec Boualem Sansal cette année, chez Odile Jacob également, de France-Algérie, résilience et réconciliation en Méditerranée. Avec nous également Alexandre Geffen, il est directeur de recherche au CNRS, à l'UMR Tallinn, à la Sorbonne Nouvelle. Il est co-auteur avec Sandra Laugier du Pouvoir des liens faibles aux éditions du CNRS cette année et de Réparer le monde, la littérature française face au 21e siècle chez José Corti en 2017. Avec nous également, troisième invité, Sarah Gainsburger, elle est sociologue et historienne. Elle est autrice avec Jérôme Truc d'un livre qui vient tout juste de sortir aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales qui s'intitule Les mémoriaux du 13 mars. Et au moment du premier confinement, elle a lancé un site qui s'intitule Vitrine en confinement. On en parlera peut-être tout à l'heure avec elle.
Nous sommes en guerre et face à ce qui se profile, ce pic de l'épidémie qui est devant nous, j'ai décidé, sur proposition de la ministre des Armées et du chef d'état-major des Armées, de lancer l'opération Résilience.
Je ne suis pas tellement un théoricien, moi, du drame. C'est très dur ce qu'on vit. Il y a évidemment, je l'ai dit, chacun a ses mots, une forme d'ébranlement, de doute, de choses terribles. Mais on a en nous une forme de résilience, cette capacité à se réinventer. C'est ça qu'on doit s'offrir. On doit se l'offrir à nous-mêmes.
Si je sais la lassitude et cette impression d'un jour sans fin qui tous nous gagne, nous devons, quoi qu'il arrive, rester unis et solidaires et ne pas céder au poison de la division. Cette période est difficile parce qu'elle éprouve justement notre résilience et notre unité. Mais elle est un révélateur de ce que nous sommes, des femmes et des hommes qui sont liés les uns aux autres.
Cette cérémonie sera le symbole de l'engagement de toute une nation. Elle sera aussi le symbole de notre résilience et de la capacité des Français à affronter les épreuves en étant unis.
Voilà donc quatre interventions du président Macron à l'occasion du 25 mars à Mulhouse, l'opération Résilience, mais également devant les acteurs du monde de la culture, devant les armées ou encore à l'occasion de l'annonce du nouveau confinement. Quatre fois où le président Macron a utilisé ce terme de résilience. Est-ce que vous vous attendiez, Boris Cyrulnik, bonsoir, à ce que ce terme que vous avez popularisé en tant que neuropsychiatre en France devienne un terme utilisé aussi fréquemment depuis le début de la crise de la Covid ?
Il est utilisé fréquemment dans tous les pays du monde qui ont des traumas à surmonter. C'est un terme, ça veut dire nouvelle évolution. Il y a l'évolution normale, ça peut être l'évolution des rites, l'évolution des plantes, l'évolution des animaux, l'évolution des sociétés, des mœurs, etc. Sauf que dans la résilience, c'est une nouvelle évolution après un trauma, donc c'est tout à fait adapté à la circonstance.
Et c'est adapté lorsque c'est utilisé par des entreprises, par des villes, je parlais tout à l'heure des villes résilientes, qui utilisent ce terme avec des sens un peu différents. C'est-à-dire qu'effectivement, le trauma peut être plus lointain, peut être moins grave qu'un trauma d'attentat ou de crise sanitaire majeure. Et on utilise aussi ce terme de résilience, Boris Cyrulnik.
Oui, absolument, mais le mot évolution aussi change de domaine. Quand on parle de l'évolution des animaux, c'est pas l'évolution des mœurs. Mmh. Et pourtant, tout le monde comprend très bien. Donc là, c'est un processus évolutif qui se met en place après une déchirure traumatique. Donc c'est normal qu'on parle de l'évolution de la résilience des îles, c'est-à-dire qu'il faut que la ville, avant le trauma, acquiert des facteurs de protection, des grandes avenues, des mécanismes de solidarité, solidarité technique, solidarité non professionnelle, si bien que quand un malheur arrive, et probablement il va arriver, on a déjà mis en place des facteurs de protection. Et après le trauma, il y a d'autres facteurs de résilience à mettre en place, c'est-à-dire la solidarité, puis plus tard le sens à donner à l'épreuve.
Il y a donc désormais un Centre national de ressources et de la résilience qui a été créé par le président de la République récemment. Vous en faites partie, Sarah Gainsbourg-Jay. On sait aussi que, par exemple, la ville de Bordeaux vient de se doter, le 28 octobre, on a appris cela, d'un conseil de résilience sanitaire. C'est vrai que ce terme, effectivement, on ne l'avait pas vu aussi fréquent dans tous les domaines, pourrait-on dire, de la vie sociale.
Oui, je fais partie du conseil scientifique, je précise, ouais, du Centre national de ressources sur la résilience. Donc c'est le terme est utilisé par tout le monde et à plusieurs niveaux, mais il ne veut pas forcément dire la même chose. Et ce qui est intéressant dans ce terme, c'est aussi que des gens se retrouvent autour du terme, mais y compris sur des malentendus. Donc par exemple, le Centre national de ressources sur la résilience, c'est vraiment un centre qui vise à mutualiser des connaissances sur le psychotrauma et qui est d'abord destiné à des psychologues et à des gens qui agissent auprès des individus. Ça n'a rien à voir par exemple avec les entreprises dont vous venez de parler.
Mmh. Et ça veut dire... Oui, allez-y.
Ce qui est sûr, c'est que dans cette diffusion, il y a clairement une logique qui est différente de celle qui était à l'origine du terme, je pense notamment dans les travaux de Boris Cyrulnik, c'est qu'il y a une question d'usage sociaux et de pratiques sociales autour de ce terme. Et quand on écoute les discours d'Emmanuel Macron, il est clair que ce qui est aussi sous-entendu là, c'est un rapport au changement. Un rapport au changement qui est quand même particulier et qui a une connotation politique particulière. Qu'est-ce qu'on change? Comment on change? Et finalement, quelque part, ce rappel constant à la résilience, c'est aussi un appel à ne pas forcément changer, à s'adapter, mais sans forcément changer les questions structurelles qui sont à l'origine des différentes causes, qui sont pas toujours traumatiques. Je pense pas qu'en entreprise, on soit de l'ordre du trauma. Pourtant, la résilience est utilisée aussi dans ce sens-là. Mmh.
Alexandre Geffen, vous êtes avec nous. Bonsoir. Et vous avez écrit pour la revue en ligne AOC un texte justement sur ces usages multiples, ces instrumentalisations, disiez-vous parfois, du terme de résilience. Et si nous posons la question ce soir de qui a les moyens d'être résilient, c'est aussi pour lui redonner peut-être une dimension sociale qui est parfois oubliée quand elle est utilisée, une dimension sociale, parce que effectivement la résilience nécessite peut-être des moyens qui ne sont pas les mêmes selon que l'on est dans une classe sociale ou dans une autre, dans une ville ou dans une autre, dans un quartier ou dans un autre. Alexandre Geffen.
À l'origine, le mot est employé pour la première fois pour qualifier la psychologie sociale américaine après la crise de 1929. Ça qualifie ce que Claudel appelle l'élasticité américaine. Donc c'est une sorte d'impératif d'adaptation. Alors employé maintenant dans le contexte politique, le mot est plus difficile à comprendre. On n'a pas d'exemple de résilience nationale en dehors de discours militaires qui apparaissent dans les années 2000. À partir de 2008, le livre blanc de sécurité et de la défense sous Sarkozy évoque une résilience nationale. Mais cet usage sociétal pose question et comme le disait Sarah Gainsbourg-Jay, il peut évacuer le collectif, il peut transférer toutes les responsabilités sur l'individu, il peut correspondre à une sorte d'amour fatigue un peu floue qui ne dit rien des nécessités de soutien, de protection collective ou de transversalité du moins.
Ouais. Boris Cyrulnik, la résilience, un individu peut être résilient, un groupe peut être résilient, une société tout entière peut être résiliente. Comment l'entendez-vous en tant que popularisateur de ce terme en France?
Je pense que l'individu ne peut pas être séparé de son contexte. Au cours d'un développement, on part du biologique. Très rapidement, il y a le contexte environnemental. Dans l'utérus, Dans les bras, il y a le contexte affectif, et dès que l'enfant parle, il y a le contexte des récits. Et la résilience, c'est le résultat de toutes ces pressions hétérogènes. Donc si on raisonne, comme on a appris à le faire en Occident, mais pas dans d'autres cultures, en termes de une cause provoque un effet, on ne peut pas comprendre la résilience. Mais si on s'entraîne à raisonner en termes systémiques, en termes éco-systémiques, c'est un raisonnement facile. Mais au XIXe siècle, il y avait déjà ce problème quand Darwin a proposé... Alors, il n'a pas écrit le mot « évolution », mais il a pensé le concept d'évolution. Or, Darwin a provoqué une réaction fixiste, c'est-à-dire que rien ne bouge, tout est déterminé une fois pour toutes, et au contraire, d'autres personnes, d'autres penseurs, aimer le mot évolution, tout change tout le temps en fonction du développement de l'individu et dans un contexte familial, socio-culturel et même dans un contexte spirituel, dans un contexte de récit. Et c'est donc là, il y a plusieurs causes hétérogènes, et c'est des raisonnements systémiques, c'est-à-dire que l'individu est au centre d'un carrefour de pression hétérogène. Bon, les gens qui aiment l'évolution aiment ce concept et les gens qui ont peur de l'évolution peur de ce concept.
Mais ça, c'est pour l'individu, mais je voulais vous demander, pour les groupes ou pour une nation tout entière, ou peut-être pour un groupe de nations comme l'Europe, par exemple, est-ce que cela a un sens d'utiliser le terme de résilience ?
Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'évolution des groupes. Dès le début, il y a des groupes où on voit que certains groupes, après le trauma, manifestent énormément de troubles psychiques, organiques et de traumatiques. Et d'autres groupes, au contraire, des populations entières où on trouve moins de syndromes psychotraumatiques, moins de délabrements organiques. Et dans ce cas-là, on a une évaluation statistique de la résilience. Donc tout à l'heure, je disais, il peut y avoir une évaluation biologique que la neuroimagerie, photographie, mesure et évalue aujourd'hui. Mmh. Et il peut y avoir aussi une évaluation psychosociale avec des termes, des enquêtes sociologiques où on voit que des groupes affrontent et reprennent très vite un bon développement, alors que d'autres groupes n'affrontent pas et ne reprennent pas un bon développement.
Sarah Gainsburger, je le rappelais, vous êtes à la fois co-autrice d'un livre avec Jérôme Truc qui vient tout juste de sortir, un très beau livre aux éditions de l'EHESS qui s'intitule Les Mémoriaux du 13 novembre. Vous avez aussi travaillé sur les politiques de mémoire avec Sandrine Lefranc et vous avez travaillé sur la mémoire vive du quartier du Bataclan où vous vivez et vous avez publié un beau livre aussi, c'était chez Anna Moza en 2015-2016. Donc vous avez beaucoup travaillé sur cette question de la mémoire traumatique des événements qui étaient les événements de 2015 en particulier. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'adaptation de ce terme de résilience à ces groupes qui d'ailleurs ont été touchés directement ou qui ne l'ont pas été mais qui ont eu l'écho de ce qui s'était passé en matière de terrorisme dans ce quartier?
En fait, justement, moi, je suis partie d'une perspective complètement inverse de celle de la résilience. Je suis partie du quartier lui-même, où j'habite, et j'ai fait un travail ethnographique ancré dans le quotidien. Parce que mon idée, c'était, est-ce que tout est question de traumatisme ? Où commence et où finit le traumatisme ? Et où, finalement, comment s'insère cet événement extraordinaire dans un ordinaire qui qualifie les gens avant et qui qualifie les gens après. C'est-à-dire que j'étais la même personne socialement avant les événements et après les événements et je suis pas la seule. Et même des victimes directes, des gens qui étaient sur les lieux, c'est aussi avec qui ils étaient avant qu'ils se sont reconstruits après. Donc moi j'étais intéressée en fait par cette question de la continuité. Et un des problèmes dans la diffusion généralisée du terme de résilience, c'est que finalement, il a tendance à effacer ce rapport à l'ordinaire, et notamment à tous les enjeux socio-économiques qu'il y a derrière. Je vais prendre un exemple plus proche de nous, sur le Covid. Donc justement, au CN2R, il y a une équipe...
Le Centre national de ressources sur la résilience, oui.
C'est ça, dirigé par Fabien Donte, qui a fait une enquête sur les étudiants confinés. Donc c'est environ 70 000 étudiants qui ont été enquêtés pour étudier leur vécu. Donc ils sont pas considérés comme traumatisés, puisque pour l'instant pour le Covid on considère que le trauma c'est ceux qui ont eu le Covid et qui ont été hospitalisés. Or ils ont comparé cette enquête psychoneuro avec une enquête sur les gens qui ont été hospitalisés pour cas graves de Covid. Et il s'avère qu'il y a plus de critères de PTSD, donc de syndrome post-traumatique, chez les étudiants confinés qui sont dans des conditions sociales difficiles, que chez les personnes qui ont été hospitalisées. Donc là, par exemple, c'est un exemple pour répondre à la question de départ qui est, est-ce que tout le monde a les moyens d'être résilient? Mais déjà, en fait, au départ de cette question, il y a qui décide où est le traumatisme collectif? Qui décide qu'est-ce qui est traumatique et qu'est-ce qui ne l'est pas dans la société? Et à partir de quel événement, sur quel événement, on doit créer une politique de résilience ou pas? Alexandre citait l'origine de la crise de 29. Alexandre Geffen citait l'origine de la crise de 29 pour le concept de résilience aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, on considérerait que les gens en situation précaire sont dans des dynamiques de résilience? C'est pas à propos de ces gens-là qu'on utilise le terme de résilience.
Alexandre Geffen, justement, et puis ensuite Boris Cyrulnik. Alexandre Geffen.
Quand Boris Cyrulnik disait le bon développement d'un groupe, moi, je ne sais pas ce que c'est que le bon développement d'un groupe. Il y a des modes d'organisation politique, il y a des modes de fonctionnement dans une entreprise, pour lesquels on emploie le mot de résilience, mais je crois que la résilience ne peut pas arrêter la politique, elle ne peut pas arrêter la demande de transformation sociale, elle ne peut pas devenir un slogan conservateur, une forme de repli sur soi, sur sa souveraineté et ses propres moyens d'adaptation.
Boris Cyrulnik, ça n'est pas dans ce sens-là que vous l'utilisez, vous, encore, ce terme de résilience. Par exemple, puisqu'on évoque la question avec Sarah Gainsbourg et Alexandre Geffen de ce qui est en train de se passer dans la société sous le coup de la Covid, il y a des scénarios de l'après et vous n'imaginez pas que le scénario de l'après résilient soit une reconduction à l'exact de la société que l'on connaissait avant.
Ah ben non, c'est même exactement le contraire. C'est-à-dire que on peut pas faire de barème de traumatisme parce que chacun, en fonction de son développement antérieur et de son contexte psychologique et social, réagit différemment. On voit des gens dans une situation de catastrophe traverser la catastrophe en souriant, alors que d'autres, au contraire, sont intensément délabrés par un minuscule événement. Donc on peut pas faire de barème de traumatisme si on raisonne en termes de processus évolutif. Alors, pour ce qui est du bon développement, j'ai été praticien pendant 40 ans. Quand quelqu'un ne dort pas, quand quelqu'un est prisonnier du passé, quand quelqu'un voit toujours la même image d'horreur qui s'impose à lui au point que ça revient dans le cauchemar, ça l'empêche de travailler, ça l'empêche d'aimer, on peut pas considérer que c'est un bon développement. On peut considérer facilement que c'est un mauvais développement. Il y a des critères cliniques qui sont validés statistiquement et cliniquement qui peuvent permettre de penser que cette personne-là n'arrive pas à reprendre un bon développement. Et ensuite, alors que, à l'inverse, on constate que, après le trauma, chacun, en acceptant l'idée qu'il n'y a pas de barème de trauma, mais quand quelqu'un est fracassé par un événement, quand il a un syndrome psychotraumatique, on peut constater que les deux mots, s'il est soutenu, comme ça a été le cas après le Bataclan, s'il est soutenu, et si on l'aide socialement, affectivement, psychologiquement, on va voir que beaucoup de gens, 90% des syndromes psychotraumatiques ont disparu un an après le Bataclan. Donc on peut évaluer tout ça.
Oui, on peut l'évaluer, mais c'est toujours au niveau de l'individu, au niveau des groupes. C'est ce que la question que vous posez, Alexandre Geffen, c'était comment évaluer l'évolution d'un groupe, justement, soumis, comme avec la Covid ou comme avec des attentats, à ce traumatisme qu'il subit.
L'individu est un carrefour de pression environnementale. Donc ça peut pas être l'individu est une notion occidentale très relative. J'ai travaillé au Japon, j'ai travaillé en Chine et en Amérique du Sud, ils sont très étonnés par notre notion d'individu. Ce qui compte pour eux, c'est le groupe qui façonne l'individu. Et ce que je viens de dire pour un groupe ou pour un individu, on peut le dire aussi pour un cerveau. Le cerveau est sculpté par le milieu et ça, on le photographie. Or, quand on modifie l'environnement, on voit que le cerveau modifie de fonctionnement. Et si l'environnement est dur, la mémoire et le développement des neurones font que le cerveau finit par modifier sa structure. Donc l'individu est une notion très relative. C'est le centre d'un carrefour de pression.
Vous écoutez le temps du débat. Nous continuons à discuter avec nos trois invités, Boris Cyrulnik, Alexandre Geffen et Sarah Gainsbourg, de la question « Qui a les moyens d'être résilient ?»
Toute la pluie tombe sur moi, et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car
toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment
France Culture,
ce qui m'arrive et ce que j'ai fait. Oh mon Dieu, ou à mes aïeux, oh, quand tant de pluie tombe soudain comme ça sur moi. Et je me dis qu'au fond,
le temps du débat,
j'en ai reçu un autre dans ma vie.
Emmanuel Laurentin,
que je m'en suis toujours sorti avec le sourire.
Vous écoutez le temps du débat, on vient d'entendre Sacha Distel, toute la pluie tombe sur moi. Alexandre Geffen, il y a eu une enquête qui a été menée par des économistes cet été, après la première vague de la Covid, qui montrait qu'il y avait un excès de mortalité importante dans les communes les plus modestes et qui faisait le recoupement justement entre la maladie qui avait été dure avec les vieux, avec les faibles, avec les minorités et avec les plus démunis, avec des facteurs aggravants qui étaient les conditions de logement et la nature des emplois occupés. On peut se dire que dans une même société, on peut être résilient différemment, peut-être face à un moment comme celui que nous sommes en train de vivre, selon que l'on habite des appartements plus vastes, que l'on ait une maison de campagne ou qu'on n'en ait pas, et qu'il y ait donc une dimension sociale qu'il ne faut pas oublier dans cette notion de résilience, Alexandre Geffen.
Oui, je crois qu'on ne peut pas mécaniser la notion de résilience, classer les résilients et les non-résilients. On peut être résilient à certaines choses, être moins résilient à certaines autres, être résilient à tel ou tel moment de sa vie. Et je crois que faire de la psyché un mécanisme simplifié dont on connaîtrait à chaque fois le mode de fonctionnement.
Ça n'est pas ce qu'a dit Boris Cyrulnik.
Le mode d'accompagnement. Bien sûr, mais je crois qu'il faut être un tout petit peu sensible à la question effectivement de l'environnement, des formes créatives de résilience et aussi de l'importance du refus de la résistance à la résilience qui est aussi un facteur de crise et d'interrogation. Et je crois que on peut aussi refuser d'être résilient, en tout cas comme on nous en intime l'ordre.
Oui, Boris Cyrulnik et puis Sarah Gainsbourg.
Alors nous, on n'emploie pas le mot être résilient, puisque c'est un processus.
Ah, vous avez été coupé malheureusement. Oui, allez-y.
En interaction constante. Donc, effectivement, vous avez employé l'expression de précarité sociale. On sait que la précarité sociale est un facteur de vulnérabilité qui empêche la résilience. Alors que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a au cours du développement, lorsqu'on a acquis des facteurs de protection, l'acquisition de la parole, une famille stable, un diplôme, un métier stable qui permet de louer ou d'acheter un logement convenable, eh bien on a des facteurs de protection qui font que le processus de résilience après le déconfinement sera facile à déclencher. Alors que si avant le confinement, avant le trauma pour certains, on a acquis des facteurs de vulnérabilité, maladie, violence conjugale, violence dans l'enfance, précarité sociale, guerre, etc., la mémoire est déjà altérée. On a une représentation de soi qui est déjà très vulnérabilisée. Et quand on sort du confinement, eh bien, on est très abîmé parce qu'on a subi le confinement dans des conditions de précarité sociale difficiles. Donc ça, c'est des raisonnements évolutifs, mais on ne peut pas employer l'expression de « être résilient ».
D'accord. Vous le dites d'ailleurs souvent, Boris Cyrulnik, il est possible d'être résilient si on a auparavant été mis en sécurité d'une certaine façon, ce qui est aussi une expression que l'on utilise dans les moments d'attentat, justement la mise en sécurité. Sarah Gainsbourg, on a vu par exemple le président de la LICRA, c'était il y a trois jours, Mario Stasi, faire un article qui s'intitulait « La France entre en résilience » à l'occasion effectivement de la commémoration et du moment que nous avons vécu hier autour de l'assassinat de Conflans-Sainte-Honorine. Qu'est-ce que vous pensez de cette utilisation dans un moment aussi grave que la question des attentats récurrents, vous qui avez travaillé sur cette question, Sarah Gainsbourg?
C'est un terme qui a beaucoup d'échos positifs, notamment auprès des victimes. Et évidemment, une personne traumatisée a très logiquement et très normalement aspire à la résilience, aspire à s'en sortir, parce que c'est ça la connotation. Mais il faut bien comprendre que le statut social du traumatisme Et important aussi dans ces processus, et je pense que Boris Cyrulnik l'a dit quand il a parlé d'un accès à la parole, aussi d'un accès au récit. Mmh. Et ça, c'est construit aussi par les pouvoirs publics. Par exemple, si on s'intéresse au fonds de garantie des actes de terrorisme, qui a été créé il y a déjà plusieurs années, qui prend en charge les victimes, pas seulement de 2015, mais des attentats précédents, depuis les années 80, le traumatisme lui-même a une valeur. En fait, il a une valeur aussi économique. Selon son degré de traumatisme et en parallèle selon son rapport à la résilience, on va être plus ou moins indemnisé. Donc c'est pas des choses, et c'est notamment une doctorante de Columbia qui travaille sur ces questions actuellement qui s'appelle Hélène Kinyou, c'est pas des choses qui socialement sont neutres. C'est le premier point. Le deuxième point, derrière la question de résilience, quand elle est employée au niveau de la société résiliente, il y a quand même un présupposé de... Bah, d'adaptabilité, mais quelle adaptabilité ?
Ou de cohésion aussi.
Oui, de cohésion,
parce qu'en même temps, ça va dans le discours du président de la République en disant il faut de l'unité, il ne faut pas de division pour être résilient. C'est ce qu'il a dit dans une de ses déclarations, par exemple.
Oui, alors ça, c'est justement le point que je voulais aborder depuis un moment, c'est que derrière l'idée de résilience, dès lors qu'elle est appliquée au niveau de la société et dans un contexte politique, il y a l'idée qu'il y a une différence de nature entre une société en paix et une société en conflit. Or, il y a beaucoup de travaux de sciences sociales qui remettent un peu en cause ce présupposé et qui considèrent que finalement entre le conflit ouvert, la guerre ouverte et la paix partout, il y a un continuum et pas forcément une rupture. Et quand on utilise la question de la résilience au niveau social, on peut se demander qu'est-ce que serait finalement. On dit il faut que la société française soit résiliente, mais qu'est-ce que serait une société française non résiliente? Qu'est-ce que serait une société non résiliente ? Ce serait une société qui disparaîtrait immédiatement ? Par exemple, même la société afghane qui subit des attentats de manière continue, elle continue à exister, elle fait encore société. Donc finalement, qu'est-ce que ça nous apporte, ce terme-là, au niveau de la société ? C'est ça qu'il faut essayer d'interroger aussi pour en voir les conséquences politiques au sens fort du terme, et dans ses rapports avec les termes de résistance, de conservatisme, de changement. Dernier point, après je laisse la parole, c'est que souvent le terme de résilience est vu de façon positive. Or, si on se rapporte au cœur de la notion, c'est-à-dire Boris Cyrulnik l'a abordé plusieurs fois, l'adaptabilité, le fait de s'adapter au changement, on peut aussi dans l'histoire voir qu'il y a plein de gens qui se sont adaptés au changement, mais ça n'a pas produit des choses positives. Quelque part, par exemple, tous les soldats allemands qui se sont peu à peu habitués à tuer par balle directement des familles juives à l'est de l'Europe. Les historiens ont montré que c'est un processus de normalisation. Ils se sont peu à peu habitués à ce processus. Quelque part, c'est un mécanisme qui est proche celui de la résilience. Or, pourtant, je pense que tout le monde sera d'accord pour considérer qu'on aurait préféré que ce soit dans un mécanisme proche de la résistance et du refus.
Sur ce point, Boris Cyrulnik, par exemple, à propos du scénario de l'après dont on parle parfois quand il s'agit de parler de la crise de la Covid que nous connaissons, vous dites il y a un scénario qui pourrait être un scénario, c'est celui du vote pour un programme autoritaire. Et puis il y a d'autres scénarios qui sont peut-être différents, et en particulier il n'y en a qu'un de ces scénarios, selon vous, qui pourrait être résilient. Vous pouvez nous expliquer comment vous classez justement ces possibilités pour une société de devenir résiliente après la crise de la Covid ?
Alors après tous les traumas, que ce soit des traumas naturels, inondations, incendies, tremblements de terre, ou des traumas culturels, guerre, précarité sociale, on voit schématiquement se remettre en place trois directions. Certains veulent recommencer comme avant. Et si on recommence à consommer énormément, à se déplacer énormément, on va recréer les situations de fabrication d'un virus. Il y a eu le siècle des pestes, le 14e, le 15e, le 17e siècle ont été des siècles des pestes, et tous les 3 ans, il y avait une nouvelle épidémie de peste bubonnaire, de choléra, et probablement de virus comme l'encéphalite de 1918. Donc ça, c'est la première voie. Beaucoup de gens veulent remettre en place le même processus. Alors, comme l'a dit Sarah, il y a une deuxième voie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre adaptabilité et résilience. J'en ai beaucoup parlé avec Masten, L'adaptabilité est parfois un phénomène pathologique. Les prisonniers, lorsqu'ils sont mis en situation de privation sociale et de privation sensorielle, ont des hallucinations et se mettent à délirer. Ils sont adaptés à la situation de contrainte, de privation sociale. Cette adaptation, ils s'adaptent par la maladie. Et l'exemple du 101e bataillon, où effectivement des gens diplômés assassinaient des enfants en leur tirant des balles dans la tête, il y a Christopher Browning, que j'ai rencontré, a trouvé des archives. C'était des gens très bien élevés, comme la culture allemande des années 30 était une belle culture germanique. Et c'est parmi eux qu'il y a eu cette tragédie mondiale, c'est-à-dire parce qu'ils étaient justement trop adaptés, sans discussion, sans possibilité, sans liberté. Ils étaient transformés en clones intellectuels et ils ne pensaient plus. Ils ne récitaient que des slogans. Et on voit que la deuxième tendance, c'est ce qui est en train de se mettre en place dans certains pays. Quand un pays est en chaos, il a tendance à donner la parole à un sauveur. Il y a toujours un candidat, et on voit que sur la planète aujourd'hui, un très grand nombre de pays ont voté pour un dictateur démocratiquement. Mmh. Et Hitler a été élu. Pétain a été élu. Et on voit qu'actuellement, un grand nombre de dictateurs sont élus, comme Erdogan, et réélus.
Et donc la voie résiliente, selon vous, pour sortir d'une crise comme celle-ci, c'est une troisième voie, d'une certaine façon, Boris Cyrulnik?
Voilà, alors la deuxième voie, c'est la soumission, le slogan, l'arrêt de la pensée. Mais par bonheur, on constate souvent que il y a après un chaos social ou économique ou accident ou naturel, on voit que des métamorphoses sociales se mettent en place. Après l'épidémie de peste bubonnaire de 1348, où un Européen sur deux a été tué en 2 ans, on voit que le servage a disparu, parce que avant l'épidémie, le seigneur vendait son château, sa terre et les hommes qui étaient dessus. Et après l'épidémie, il y avait la famine commençait parce qu'il n'y avait plus assez de paysans. Donc les paysans ont été courtisés, entourés, et ils se sont remis à cultiver avec de nouvelles techniques. Ils ont empêché la famine et le servage a disparu. Et puis on a l'exemple aussi de la Seconde Guerre mondiale où les jeunes hommes, pendant 7 ans, n'avaient rien appris. 3 ans de service militaire, 4 ans de guerre, prisonniers de guerre. Toute une génération n'avait rien appris. Et pendant ce temps, les femmes ont tout fait marcher. Et elles ont fait marcher l'administration, les hôpitaux, les usines. Et en 1945, il a été impossible de leur redonner le statut d'avant. Et là, il y a eu un processus épanouissant.
Alexandre Geffen, est-ce que vous pensez justement que cette notion de résilience pourrait nous offrir des lendemains qui chantent après la crise que nous sommes encore en train de vivre?
Il est difficile d'aller contre un modèle si général, si positif et si généreux que celui de Boris Cyrulnik. Je crois simplement, lorsqu'on parle de l'attribution du droit de vote aux femmes, on n'a plus grand-chose à voir avec la question de résilience. Hein. La puissance de transformation d'une crise est vraiment un autre problème. Moi,
vous avez travaillé, par exemple, sur la question des liens faibles avec Sandra Loger, qui est un autre concept, lui, inventé dans les années 70 aux États-Unis par Mark Granovetter. Elle était venue nous en parler il y a peu de temps, d'ailleurs, Sandra Loger, à ce micro, et qui dit que, effectivement, la société est faite de tout un tas de liens qui ne sont ni familiaux, ni de travail, ni d'amitié, mais qui sont ce qu'on appelle des liens faibles. C'est-à-dire des petits gestes, des petits regards dans une société. Or là, ces petits gestes et ces petits regards, ils sont bien mis à mal par le confinement et le reconfinement, par exemple.
Oui, en même temps, ils sont restés très très importants parce que nous étions d'autant plus isolés que nous devions rester chez nous. Et à ce moment-là, le moindre rapport social, même minimal, faisait sens. Et je crois que ce confinement a à la fois montré comment certains liens forts, certains liens familiaux pouvaient être difficiles, étouffants, et en même temps montré justement l'importance de ce qui est venu à nous manquer, à savoir les relations avec les voisins, avec les gens qui nous encaissaient nos courses au supermarché. Et je crois que ça a pu être l'occasion d'une prise de conscience, justement, du fait que la société tenait aussi par ces formes de relations de courte distance et de faible intensité.
Et en même temps, en se reconfinant, notre société relance aussi ces coupures, ces brisures qui peuvent, disons, faire mal à chacun d'entre nous de ne pas justement croiser le regard de ses voisins ou de le croiser juste au-dessus d'un masque, par exemple.
Le numérique a l'immense mérite de nous permettre de compenser au moins partiellement.
Hein, déjà, de faire des émissions de radio à distance, c'est déjà pas mal.
Cette déshumanisation, oui.
Sarah Gainsburger, sur ces questions, et en particulier sur le fait que quand on est résilient, eh bien, on peut aussi refuser de l'être. Et vous évoquez parfois la question du procès Charlie, qui est encore d'actualité, même s'il est interrompu momentanément, en disant, est-ce qu'on a le choix d'être résilient, de continuer à être des survivants, par exemple, pour ceux qui sont au procès Charlie? Et on a le choix.
Oui, lors du procès des attentats de janvier, il y a plusieurs types de victimes, et notamment, effectivement, les victimes de l'attaque de Charlie Hebdo. Certains d'entre eux se revendiquent plutôt comme survivants que comme victimes, y compris parce que c'est aussi, ça va aussi avec un rapport aux politiques. C'est-à-dire que souvent, la résilience, la mise en avant du terme de résilience, y compris parce que ça a une origine psychologique, a tendance à dépolitiser les enjeux et la position de la victime en question. Ça la réduit un peu à sa condition de victime, qui est évidemment déjà beaucoup, mais qui n'a pas forcément une connotation de revendication politique d'une forme ou d'une autre. Derrière le terme de survivant, il y a, et ça va avec dans le cas des dépositions qu'on a pu entendre au procès des victimes de Charlie Hebdo, enfin donc des parties civiles, je vais employer le terme technique, des parties civiles de Charlie Hebdo, c'est que ils se revendiquent comme survivants aussi parce qu'ils ont un propos politique. Précisément, ils veulent pas forcément que la société se réadapte ou revienne au statu quo d'avant. Ils veulent qu'il y ait des changements. Parce que certains l'ont dit, où sont passés les combattants de la liberté? Ils ont des causes et des demandes de prise de position politique qui vont avec cette revendication de statut. Ça m'amène à un point que je voulais aborder par rapport à la question.
Évidemment, on arrive au bout.
Oui, pour dire que est-ce que pour qu'une société soit résiliente, il faut que tout le monde soit résilient? Est-ce qu'il y a aussi des enjeux quand même de pouvoir, de domination, d'inégalité entre les gens? Et finalement, est-ce que la situation de chacun doit revenir à l'état d'avant, s'adapter pour que la société soit résiliente, ou il faut que certains voient aussi leur situation changer? Et l'exemple du vote des femmes est intéressant, parce qu'on peut pas penser que le vote des femmes est seulement venu de l'investissement des femmes dans l'effort de guerre. C'est aussi venu d'une lutte des femmes pendant beaucoup d'années pour obtenir ça.
Du 19e siècle.
Voilà, et c'est aussi le processus de ça. Et donc derrière l'idée politique de la résilience telle qu'elle est utilisée, notamment dans les discours d'Emmanuel Macron, il y a quand même cette évacuation quelque part du politique au sens de lutte, d'inégalité, de rapports de domination et de pouvoir qui sont quand même, je pense, au cœur des sociétés contemporaines.
Un dernier mot, Boris Cyrulnik, est-ce qu'on peut être en guerre et être résilient en même temps?
Non, quand on est en guerre, on est dans l'affrontement. On est dans le temps présent, dans la synchronie. Et la résilience, c'est un processus. Donc, c'est une intégration du temps. Comment j'étais avant la guerre, comment j'ai affronté pendant la guerre, comment je vais être soutenu et comment je vais pouvoir penser ce qui s'est passé pendant la guerre. Alors là, on peut déclencher un processus de résilience. Mais si on est en guerre, on est dans le coping, on est dans l'affrontement, on est dans la synchronie, dans le temps présent. On parlera de résilience après. Ouais. Mais si avant la guerre, on a acquis des facteurs de protection, on affrontera mieux la guerre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Macron a employé le mot résilience la première fois chez les militaires, parce que les militaires ont une formation obligatoire à la résilience. Ils s'entraînent physiquement, moralement, culturellement, avec leur famille, parce qu'ils ont choisi de faire ce métier. Donc, c'est vrai aussi pour les gendarmes, pour les pompiers.
Merci. Merci beaucoup. On arrive au terme. Un dernier mot, Boris Cyrulnik, on arrive au terme de l'émission. Boris Cyrulnik.
Alors, le dernier mot, Ben, le dernier mot, c'est que je suis très content d'avoir bavardé avec vous et avec vos invités, mais je crois que le concept de résilience a du mal à rentrer dans la culture, parce que tout ce que j'ai entendu, c'est encore des rapports de causalité linéaire. C'est politique ou non. Alors que le rapport des 1000 jours, j'ai été président de la commission des 1000 jours, au contraire, on a chacune des révolutions, des propositions biologiques, éducatives, avait des retombées et des conséquences politiques.
Merci. Merci beaucoup, Boris Cyrulnik. C'était donc le temps du débat. Chloé Cambrelin, Imane Gilles, Rémi Baye, Fanny Richer, Hugo Boursier, Somaya Dabesh étaient avec nous à la technique et Alexandre Manzanares à la réalisation.